nous voilà sur les ondes de Radio Galère une nouvelle fois pour ces chroniques hebdomadaires de Comaguerre, en compagnie de toute l'équipe de Comaguerre qui est là. Bonjour Roselyne.
Bonjour.
Elle arrive. Bonjour, bonjour Abib.
Bonjour Roselyne, bonjour Bernard, bonjour les auditeurs.
Voilà, on est là, on a bien travaillé, on a préparé cette émission en échangeant les uns et les autres et puis en suivant chacun à notre façon. Enfin, sans se le dire, on suit certains types d'actualités chacun de notre côté et puis après on rassemble tout ça dans une synthèse pour vous présenter quelque chose du plus construit possible. Et j'ai commencé, sans m'attarder sur le sujet, par la France qui, vous le savez, n'est pas en très bonne santé, puisque la France n'a pas de gouvernement, vous êtes au courant, non. Ce qui n'empêche pas un certain Emmanuel Macron de nommer des responsables français au sein de la Commission européenne, ce qu'il a fait ces derniers jours en nommant M. Séjourné, ex-ministre des Affaires étrangères, à la place du commissaire M. Thierry Breton, qui a démissionné. Alors M. Thierry Breton occupait un poste de commissaire, donc désigné par le gouvernement français, extraordinairement important au sein de la Commission européenne, au point que je pense qu'il faisait de l'ombre, tellement son poste était vaste, c'était les politiques économiques d'information, c'était très très vaste, il le faisait, il y mettait tout son poids, et je pense que l'espèce de monarque non élu, Madame Ursula von der Leyen, ne supportait pas l'ombre que pouvait lui faire ce monsieur. Et donc, on savait qu'il ne s'entendait pas bien. Et puis, voyant qu'il ne pourrait pas être dans la nouvelle commission, puisque la nouvelle commission n'est pas encore mise en place, puisqu'il faut qu'elle soit validée par le Parlement européen, ce qui n'est pas fait et ce qui risque de ne pas être simple, donc M. Breton a démissionné avec fracas. Ouais. Et quasiment dans l'instant, comme si c'était attendu, l'hôte de l'Élysée, appelons ça comme ça, l'hôte de l'Élysée a nommé M. Séjourné, ex-ministre des Affaires étrangères, comme commissaire à Bruxelles. Donc il continue à gouverner comme s'il ne s'était rien passé. D'ailleurs, il ne s'est rien passé puisqu'il n'a rien fait. Il n'a fait que des erreurs et comme il ne revient pas sur ses erreurs, la dissolution, etc., il n'en parle pas. Comme ça, c'est la meilleure façon que les erreurs soient oubliées. Ben, qui n'y compte pas, alors pour nous au moins, et je pense que nous ne sommes pas les seuls dans l'opinion française, nous n'oublions pas ses erreurs et nous n'oublions pas les premières erreurs qu'il a faites, celles qu'il continue à faire, puisque de toute façon, ce monsieur est imperméable au sentiment d'échec. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est bien fait. Quand il le fait, il est content. Après, il est très content de l'avoir fait. Et jamais il ne se remet en question. Il accepte d'être remis en question par quelqu'un d'autre. Bon, on le sait. On sait qu'il est comme ça. On espère qu'il ne restera pas là où il est très longtemps, le moins longtemps possible. Mais pour l'instant, il est encore là. Et je voudrais montrer l'état de faiblesse de l'État tel qu'il a été affaibli par Emmanuel Macron à travers quelques éléments d'un document qui vient d'être publié par une ONG, vous savez ce que c'est, qui s'appelle Oxfam, dont le nom ne vous est probablement pas étranger, qui est d'origine britannique et qui se permet de sortir un document extrêmement charpenté, bien nourri de documents, de statistiques françaises d'ailleurs, sur les super héritages en France. La France se caractérisant par des cadeaux à certaines catégories d'héritiers. Alors je vous en livre quelques éléments. Les super héritiers français, soit le top du 0,1% des héritiers, reçoivent environ 13 millions d'euros, soit 180 fois l'héritage médian, et ne paient en moyenne que 10% d'impôts dessus. 180 fois l'héritage médian. Dans les 30 prochaines années, 25 milliardaires français transmettront à leurs héritiers plus de 460 milliards d'euros de super héritages sur lesquels l'État risque de perdre 160 milliards en raison des niches fiscales existantes si rien n'est fait. Alors, je m'arrête un petit peu sur ce mot. 160 milliards, c'est plus que le déficit annoncé du budget de la France cette année et l'année prochaine. C'est-à-dire que l'argent, on peut le dire, le redire à toutes les émissions, l'argent, il y en a, il suffit d'aller le chercher. Mais comme il faudrait aller le chercher dans la poche des super héritiers, M. Macron ne veut pas leur faire de peine. Je ne sais pas s'il fait partie, ou lui ou son épouse, ou la famille Trogneux chocolatier à Arras fait partie des super héritiers, il ne va pas le chercher. Donc effectivement, il dit « Ah, il manque !» Et il tourne le regard de l'autre côté. On lui dit « Il y a de l'argent là », il regarde exactement dans la direction. Bon. Je continue. Les parents fortunés peuvent transmettre plus d'un demi-million d'euros tous les 15 ans à leurs héritiers sans le moindre impôt. Écoutez bien, 7 des 9 Français devenus milliardaires en 2024. Vous savez que depuis que Macron est là, il y a des promotions de milliardaires à longueur d'année, sont des super héritiers. Alors, Et on ajoute, près cette étude, près de 60% des Français se montrent favorables à une taxation plus forte des héritages les plus élevés. Ça paraît aller de soi. Bon. Alors il se trouve que, étonnamment, c'est une ONG d'origine britannique avec une agence en France qui travaille bien avec des documents sortant de l'État français qui publie ça. Donc ça pourrait être très bien publié, ça aurait pu être publié par M. Bruno Le Maire s'il avait des loisirs. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne veut pas. Parce que il peut faire peut-être partie des 0,1%. De toute façon, ses amis font partie des 0,1%. Il les reçoit, il les écoute, il les prend au téléphone, etc. Voilà comment marche la France de M. Macron. Et ça, c'est ça qu'il faut que nous ayons en tête dans le bilan de ce personnage. Et donc, le macronisme continue. Il ne se passe rien. Alors j'ajoute une dernière chose à propos des niches fiscales et des règlements sur la transmission des héritages. Ce genre de mesures, pour modifier les systèmes de taxation, il suffit d'un décret. D'un décret. Écoutez bien, il n'y a pas besoin d'avoir un Parlement avec une majorité écrasante. Il suffit que le gouvernement, par exemple, je le dis au hasard avec un petit clin d'œil de Mme Gasté, si jamais il existait, aurait pu prendre des décrets disant ben, « on va revoir la gradation de la taxation des héritages ». Il aurait suffi d'un décret de Mme Gasté, signé par son ministre des Finances, etc. Ça aurait suffi. Et c'est ça que Macron n'a pas voulu. Je ne veux pas de gouvernement, évidemment, puisqu'il savait très bien qu'avec simplement la signature de décret, simplement l'aménagement de la fiscalité française permettrait de trouver l'argent qui manque et qu'on va aller chercher. C'est dans le projet de budget. Le projet de budget, d'ailleurs, qui est quasiment prêt, puisque M. Le Maire a laissé sur son bureau, en même temps, tenez-vous bien, que son directeur de cabinet, écoutez bien, le directeur de cabinet de M. Le Maire est devenu directeur de cabinet de M. Barnier. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui a fait tous les dossiers depuis des années, qui est au courant de tout, qui va dire « Ah, Barnier, mais ça, c'était prêt, tu peux signer hein ». Voilà l'innovation française. Et puis, je vais pas vous rendre triste pour la semaine, donc je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a d'autres motifs de tristesse. Alors j'ai commencé à un motif de surprise. Commençons par le deuxième attentat contre Donald Trump. Alors là, autant le premier attentat, c'était assez clair. On avait très vite vu d'abord que le tueur avait été liquidé dans l'instant même. On avait vu des photos, l'endroit où il était, la tribune publique et tout. Et là, c'est beaucoup plus vaseux, j'allais dire, le deuxième attentat. Monsieur Trump est en train de jouer au golf, donc dans un endroit qui a priori est privé. Et on découvre qu'il y a quelqu'un avec un pistolet mitrailleur quelque part dans les bois alentour. Bon. Alors, on n'a pas de photos, on n'a rien, c'est un lieu privé, c'était pas un meeting, etc. Et puis tout d'un coup, le lendemain dans la presse, on a trouvé ce monsieur, celui qui soi-disant avait un pistolet mitrailleur dans les bois derrière le golf. On lui donne son nom, on fait son portrait. Et son portrait est celui d'un militant ukrainien radical qui est connu, qui est citoyen des États-Unis, il est ukrainien d'origine, il est militant ukrainien radical, qui aurait, paraît-il, vidé son sac en disant « Ah, M. Trump va trahir l'Ukraine, il va nous laisser tomber, il va laisser tomber Zelensky et tout, il doit mourir ». Tout ça est une fabrication extrêmement louche. Alors, c'est un deuxième attentat, donc il y a des supporters de Trump vont dire « Voyez, ils veulent sa vie, ça va peut-être augmenter le courant de soutien », mais rien n'est plus troublant que ce deuxième attentat. Autant le premier, on a très vite su qui s'était passé, et puis de toute façon, le tueur est mort. Là, le tueur n'est pas mort, il est identifié, il est connu, il prend souvent la parole dans la presse, etc. Et il vient dire publiquement, ce qui fait partie de la campagne électorale, les États-Unis ne doivent pas abandonner M. Zelensky. C'est ça qui se joue. On n'est plus du tout dans la question de l'attentat contre la personne de Donald Trump. C'est tout à fait autre chose. C'est encore une fabrication. Bien. Il y en aura sans doute d'autres, puisqu'il reste encore un mois et demi avant le 4 novembre. Et ce que j'allais dire d'une façon générale dans cette période assez difficile que nous allons tous traverser, c'est que les grands sujets qui font... qui sont douloureux, j'allais dire, la Palestine, l'Ukraine et d'autres endroits, ne bougeront pas ne bougeront pas d'ici le 4 novembre parce qu'il sera décidé que les États-Unis ne bougeront sur rien puisque les États-Unis sont dans l'incapacité absolue de bouger dans un sens ou dans un autre. Le moindre pas que ferait Kamala Harris dans un sens ou dans l'autre serait interprété comme ça va perdre tant de voix d'électeurs, en gagner, etc. Et en fait, ils ne vont rien faire. Donc la situation internationale, y compris dans les endroits les plus douloureux, est gelée jusqu'au 4 novembre. Ça, c'est ce qui reste du poids des États-Unis. Un espèce d'obstacle, un ectoplasme qui est là au milieu de l'actualité internationale et qui empêche les choses, les dossiers d'évoluer dans un sens positif. Heureusement, il y a des gens qui s'occupent quand même de faire avancer les choses positivement. Je vais y revenir. Mais pour revenir aux États-Unis et en finir là-dessus, on n'en a jamais fini avec les États-Unis, tant on apprend des choses, mais il faut revenir à un événement qui s'est produit il y a extrêmement longtemps, qui s'appelle le sommet de l'ONU à Durban. Alors vous savez, qu'est-ce que c'est que ça, le sommet de l'ONU à Durban? Ben, c'était une conférence de l'ONU sur le racisme, l'antisémitisme, l'impérialisme et tout, qui avait été convoquée donc, en Afrique du Sud, à Durban. C'était une façon, on était en 2001, au mois de septembre, c'était une façon de donner du lustre à la nouvelle arrivée de la République sud-africaine en fin d'apartheid, du lustre dans l'arène internationale. Et c'est une façon de dire tout ce qui s'est passé là, en particulier en Afrique du Sud et ailleurs, ne doit plus se reproduire. Hein, puisqu'on a considéré, ce qui était vrai à l'époque, ce qui est encore vrai, que l'apartheid était la quintessence, le fin du fin du racisme et du néocolonialisme. Et cette conférence de Durban avait très très bien travaillé. Et elle avait publié le 7 septembre 2001 une déclaration qui, d'après les témoins de l'époque, avait été arrachée article par article, paragraphe par paragraphe, parce qu'effectivement, pour une fois, l'ONU allait assez loin dans la condamnation du racisme et de toutes ses formes. Et on comprend bien que ça ne plaisait pas, et je vais vous lire pourquoi ça ne plaisait pas. Un des éléments, parce que le document, la déclaration finale, elle fait une trentaine de pages, mais je vais vous lire simplement deux paragraphes. Et vous comprendrez pourquoi ça faisait grincer dans les chaumières, si j'ose dire. « Nous sommes préoccupés par le sort du peuple palestinien vivant sous l'occupation étrangère. » Ça ne peut pas être plus clair. « Nous reconnaissons le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et à la création d'un État indépendant, ainsi que le droit à la sécurité de tous les États de la région, y compris Israël, et engageons tous les États à soutenir le processus de paix et à le mener à bien rapidement. » Ça s'adresse autant à Israël qu'à la Jordanie, qu'à tout le monde. Bon. Et le deux paragraphes suivants. Nous reconnaissons, écoutez bien, le droit des réfugiés de regagner librement leur foyer dans la dignité et la sécurité et de recouvrer leurs biens et prions instamment tous les États de faciliter ce retour. Alors comment ça a été reçu ces deux paragraphes à Tel Aviv? Eh bien on s'est assis dessus joyeusement et comme il n'y avait pas de sanctions puisqu'il s'agit d'une déclaration signée par la majorité des États de la planète mais qu'il n'y a pas de contraintes et pas de sanctions, on en est resté là. On en est à peu près encore là, donc 23 ans après. Alors je voulais rappeler cette déclaration de Durban parce que je rappelle sa date. La clôture des débats qui ont été acharnés, les témoignages qu'on a eus à l'époque, effectivement, ça avait été dur et il y avait eu des oppositions, en particulier sur ce type de paragraphe, et il y en avait d'autres. Que sur beaucoup, je ne me suis pas arrêté dessus, mais sur la condition faite à l'Afrique en général. Et c'était normal, puisque ça se passait en Afrique du Sud, il y avait beaucoup à dire là-dessus. Et ce qui se passe, donc, c'est 7 septembre, 4 jours après, on a le 11 septembre. 4 jours après. Et qu'est-ce que ça fait le 11 septembre? Ben ça détruit absolument tout ce qu'il y a pu se dire là-dessus, puisque le 11 septembre au soir, George Bush dit « On déclare la guerre contre le terrorisme, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous ». C'est-à-dire tous les facteurs d'unité de la population mondiale, de surmonter toutes les discriminations, le racisme, etc., sont jetés aux orties le soir même du 11 septembre, à se demander si le 11 septembre n'a pas été fait pour ça, hein, en disant « ça, ça n'a pas d'importance, on n'en a rien à faire, hein, et nous, on mène notre politique impériale, raciste, impérialiste, colonisatrice et tout ». Et ils vont apporter la preuve au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Souvenez-vous, un mois après, ils envahissent l'Afghanistan. Deux ans après, c'est l'Irak. Et ça n'a jamais arrêté depuis. On a eu la Libye, on a eu la Syrie, etc., etc. On est j'insiste là-dessus parce que je pense qu'on est à la fin de cette période-là. On est à la fin de cette période-là, d'une part parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients des phénomènes que je viens d'énoncer brièvement, et il y a beaucoup de pays qui disent maintenant on ne veut plus de ça, et même une majorité certainement de pays du monde. Alors, ils ont, au travers de leur chemin pour un paysage beaucoup moins raciste et beaucoup moins exploiteur que celui que nous avons sous les yeux, beaucoup d'alliés qui sont encore qui ont encore en face d'eux le blocage du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc le blocage états-unien, c'est-à-dire que le responsable de la guerre contre le terrorisme essaye de sauver la mise avec certaines difficultés, je pense, mais pour l'instant, il y arrive. Alors, on sent bien que ça pousse. J'ai vu, par exemple, une déclaration, je ne sais pas qui l'a faite, demandant à ce que l'Afrique ait deux sièges au Conseil de sécurité. Ah. Alors, je ne sais pas qui est à l'origine de ce...
Mais je crois que c'est Guterres.
Ben non, il y a un élu africain, ou le président de l'Union africaine, qui a repris le truc. Bon, peu importe. En fait, effectivement, quand on gratte, de toute façon, pour donner donc, le droit de veto, parce qu'autrement, ça ne sert à rien d'être au Conseil de sécurité, puisque de toute façon, dans les 10 membres non permanents, il y a toujours des Africains. Donc, ça change. Donc, ce qui importe, c'est le droit de veto. Et à ce moment-là, le droit de veto pour... à donner le droit de veto à quelqu'un d'autre, il faut que les États-Unis ne mettent pas leur veto. Donc, le chat se mord la queue, on n'arrive à rien, puisqu'on peut annoncer ceci et cela, il y aura l'Inde au Conseil de sécurité, il y aura le Brésil ou quoi. Mais en fait, comme ça ne peut marcher que s'il y a un droit de veto de ceux qui ne sont pas les États-Unis, ou si on l'enlève aux États-Unis, c'est une autre technique possible, que si les États-Unis se laissent faire. On n'en est pas encore tout à fait là.
Loin.
Mais pour bien situer les choses, c'est-à-dire, je veux éviter de faire rêver sur des demandes, un tel pays va rentrer au Conseil. Oui, mais pourquoi faire? Pourquoi faire et avec quel pouvoir et qu'est-ce que ça changera du blocage actuel du Conseil de sécurité? C'est pour ça que le chantier ONU, c'est un vaste chantier qui va demander...
Il faut tout revoir.
Voilà, il faut tout revoir. Alors, beaucoup de gens essayent, heureusement, de travailler en dehors du Conseil de sécurité, de trouver des accords entre eux. C'est le cas des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai et tout. Ils essayent de retravailler à l'extérieur. Et ça a été le cas, puisqu'on en est dans les questions de sécurité internationale, puisque, alors, je vais situer ça dans l'immense activité de l'équipe russe actuelle, en priorité le président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Guerre et tout. Il faut savoir, vous n'en rendez peut-être pas compte, parce qu'on ne vous en rend pas compte dans les ondes officielles nationales et sur les écrans officiels nationaux. Mais... le niveau d'activité de Poutine, de Lavrov, de la porte-parole, du ministre de la Défense, du ministre des Finances russe, sont à un niveau extraordinairement élevé. On peut même se poser la question de savoir s'ils ne vont pas être un peu fatigués, parce qu'ils courent partout. Ils courent partout. Ils interviennent avec pertinence dans beaucoup de débats, tout le temps, tout le temps. Et il faut alors les suivre au jour le jour, c'est déjà assez difficile. En plus, sur un territoire de la taille qu'ils ont, de courir donc de Vladivostok à Saint-Pétersbourg d'un jour à l'autre, etc., c'est fatigant. Poutine l'a dit lui-même l'autre jour dans une réunion avec des enfants des écoles, tout va en disant, vous savez, j'ai dormi 4 heures, c'est le décalage horaire. Eh ben, c'est pas assez, je suis fatigué, il a dit aux enfants des écoles. Et il leur a dit, dormez plus que ça, il faut dormir pour être en bonne santé. Bon. Mais en fait, ce qui se passe... et ça, c'est la leçon, en dehors de l'anecdote, c'est la leçon qu'il faut connaître. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'histoire où il faut savoir aller vite, parce qu'il y a un passage possible. Quand les États-Unis sont dans l'état où ils sont, dans une espèce d'incertitude sur qui va être président, qui gouverne vraiment, parce que ça vient bien au-delà du choix entre Kamala Harris et Trump, il y a beaucoup de chroniqueurs, de journalistes aux États-Unis qui disent « rendez-vous bien compte que le pays va mal, c'est pas simplement le bon candidat ou le mauvais candidat, il n'y aura pas de candidat miracle, il n'y a pas de candidat miracle, ni l'un ni l'autre d'ailleurs est capable de faire des miracles, je pense. Hein. » Et donc, quand les États-Unis sont dans un état d'affaiblissement et sont bloqués par paralysé par cette élection qui, soi-disant, devrait tout régler, qui réglera peut-être pas grand-chose, mais qui permettra au moins de faire apparaître des décisions. Alors, pour l'instant, ils peuvent quasiment rien décider d'officiel. Ils peuvent faire des coups tordus, ça, c'est évident. Mais des déclarations officielles, non. Ni l'équipe de la Maison-Blanche, on ne sait pas qui c'est, ni elle qui, dans sa campagne, marche sur des œufs pour ne pas fâcher les uns ou les autres, perdre des voix à droite ou vers des voix à gauche. Trump qui est dans des généralités très vagues, finalement, qui dit rien. Et Trump, un mot juste sur Trump, c'est-à-dire on ne sait pas comment sera constitué, s'il gagne, l'entourage de Trump. C'est-à-dire le personnage livré à lui-même ne sera pas tout à fait celui de son premier mandat. Il faut savoir, il faut se rendre compte que son arrivée à la Maison-Blanche a été inopinée. Lui, peut-être, y croyait. Bon, tant mieux, c'est bien pour lui. Mais en fait, il s'est entouré un peu de n'importe qui sans avoir d'équipe préparée et sans prendre de gens dans les questions avec une vraie compétence politique. J'en prends le seul exemple, c'est le seul que je peux mettre sur la table, mais il y en avait d'autres, sur les questions touchant la Palestine et Israël. Il a pris comme quasi-ministre tous les pouvoirs, il les a donnés à son gendre, M. Jared Kushner, qui était l'époux d'une de ses filles. Bon, et M. Jared Kushner, c'était connu, il est encore stationniste acharné. Et donc, Trump a dit, mon gendre s'en occupe, moi j'y comprends rien, on lui fait confiance. Ça peut amener à des énormes bêtises. Le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, c'est un crachat à la figure de l'ONU, c'est une insulte à l'ONU, qui a à peine réagi d'ailleurs à l'époque, c'est bien dommage, mais c'était exactement ça. Mais quand on donne des postes de responsabilité à des gens qui ne connaissent pas, on arrive à ce genre de résultat. Les pratiques de monsieur, je reviens encore là-dessus, sur Trump en Amérique latine, ont été confiées à une personne qui en fait détestait tous les progressistes et tous les gens de gauche d'Amérique latine, qui ont accentué les sanctions contre Cuba, qui ont mis en place une tentative de renversement du président vénézuélien Maduro. Tout ça fait beaucoup, mais on y a mis quelqu'un qui s'est présenté en disant « je veux bien hein, », et puis voilà. Et Trump, qui n'avait pas une idée particulière, a dit « allons-y, je signe ». Donc il était prêt à signer n'importe quoi, puisqu'il était entouré par des gens qui ne connaissaient pas, qui se présentaient comme des spécialistes, et qui, sans doute, lui faisaient plaisir. Enfin, on ne sait pas comment ça se passait. Bon. La deuxième fournée éventuelle, je me place dans la suite du 4 novembre, la deuxième fournée éventuelle de Trump ne sera pas tout à fait du même gabarit. D'une part, lui, il a appris, il a regardé comment ça se passait, il a vu ses erreurs, quitte à avoir envie d'en connaître d'autres, mais il va être obligé de s'entourer de gens un peu plus compétents. Et ça, ce sera le fait de la pression, d'une part, du fils de Bob Kennedy, de gens comme... Tulsi Gabbard dont j'ai parlé, et peut-être d'un certain nombre d'autres. C'est-à-dire, on peut imaginer, ça on verra à partir de janvier, qu'il y aura une équipe un peu plus consistante dans une présidence Trump, bon, qui sera peut-être sans doute un peu différente d'une équipe Kamala Harris éventuelle. Mais tout ça ne règle vraiment rien, si ce n'est que ça rappelle, et c'est de plus en plus courant dans la presse des États-Unis, enfin les gens qui réfléchissent un peu, en disant de toute façon, n'ayez pas d'illusions, le changement de président ne change pas grand-chose, le complexe militaro-industriel est toujours là, ceux qui prennent vraiment les décisions sont des gens que vous ne voyez pas à la télévision, parce qu'ils possèdent le poste de télévision, donc ils n'ont pas besoin d'y apparaître, et ce sont les gros donateurs, hein. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que l'élection des États-Unis coûtant extraordinairement cher, alors il y a, ça c'est pour tromper son monde, il y a des petits dons. Alors vous trouvez, vous allez sur des sites internet de soutien aux démocrates ou aux républicains, on vous dit, allez, donnez 10 dollars de plus et on va gagner les élections sénatoriales ici-là. Ça ne sert à rien. Hein. Simplement, on fait monter, on fait des jolies courbes, etc., en couleur, 10 dollars, encore 10 dollars pour faire élire M. Machin gouverneur de tel État, ça ne sert à rien. Parce que, de l'autre côté, discrètement, dans la coulisse, il y a M. X, M. Rockefeller ou un autre X qui va dire « moi, je mets 5 millions de dollars ou plus hein. ». Et donc, c'est eux qui vont faire la décision. Bon, triste état de la démocratie aux États-Unis. Alors, j'en veux pas à Tocqueville et à ses souvenirs, mais ce qu'il en a décrit, c'est plus du tout ça. C'est le règne de l'argent. Donc, ouais. Ne soyons pas surpris par les choses qui vont arriver par la suite. Voilà. Pour donc ce qui se passe donc du côté des autres, il se passe beaucoup de choses. Alors je disais effectivement que l'équipe russe, elle, profite de cette vacuité du pouvoir à Washington pour avancer très très vite et au point que j'essaye chaque semaine de faire le point sur les réunions importantes qu'a tenues Poutine ou Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. Il y en a presque trop. C'est-à-dire, je suis obligé de sélectionner parce que de toute façon, elles sont toutes exemplaires à un endroit ou à un autre d'une situation. Alors, j'en ai retenu une ou deux, mais je pourrais faire ça sur beaucoup d'autres citations. Je prends Lavrov parlant de l'Ukraine. Ça, c'est très intéressant pour la suite. Tous les connaisseurs de la chose militaire disent qu'effectivement, la guerre d'Ukraine, telle qu'on nous la présente, elle est quasiment finie, c'est-à-dire que l'Ukraine n'a aucune chance de la gagner, et d'autant moins de chance que chaque fois qu'ils tentent une opération du genre de salle de cours, ils perdent le maximum d'hommes, le maximum de matériel, et que le matériel n'arrive plus, et les hommes, ils en trouvent de moins en moins. Bon. Donc ça, c'est clair. Et que dit alors ? Donc, on sent bien qu'effectivement, les conditions de la fin de la guerre sont en train d'être réfléchies. Et la position de Lavrov est extrêmement intéressante. Alors je la livre synthétiquement. Il dit, quand on arrive à une négociation de paix, car il sait bien, il ne s'agit pas d'un armistice, il s'agit de signer un traité qui clarifiera la situation pour 50 ans, un siècle, comme un vrai traité de paix qui a un sens. Il ne s'agit pas d'aller piqueter le terrain avec un marteau et des petits piquets en bois en disant, là c'est chez vous et là c'est chez nous, à droite c'est à vous, là, à gauche c'est à nous. Il dit, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, la démocratie. La démocratie, ça consiste à aller voir les gens et leur dire, vous voulez être de quel côté de la frontière future ? Alors, on les prend sur la base géographique où ils sont organisés, c'est-à-dire les provinces, les communes, etc. Et on leur demande leur avis. Hein ? C'est pas à la population de dire, ah ben, vous avez mis les piquets là, bon, moi, je préfère aller côté droit ou je préfère aller côté gauche. La population, on va lui demander de parler et elle va dire, moi, je vais être du côté russe ou moi, je vais être du côté ukrainien. Et c'est là que ça va se jouer. Et c'est là que ça va se jouer d'une façon qu'on a très, très bien compris. C'est-à-dire qu'il y aura évidemment une majorité de gens qui seront du côté russe. Et donc, c'est pas sans avoir attiré un coup de fusil supplémentaire, mais en fait, la Russie va engendrer le bénéfice de la façon dont elle a conduit le conflit, la façon dont elle a défendu la population du Donbass. Elle l'a défendu politiquement avec les accords de Kiev, ça n'a pas marché. Elle l'a défendu maintenant militairement depuis 2 ans et demi. Et c'est ça qui va être pris en compte par les populations. La Russie a défendu des populations qui étaient opprimées par le régime néo-nazi de Zelensky. On a coup de chapeau à la Russie. Et donc si on nous demande chez qui on veut aller, eh ben on va aller du côté russe. Ce qui veut dire que sans qu'il y ait eu la moindre bataille, ou à Odessa, ou à Kharkov, je prends deux villes importantes d'Ukraine, pas tout à fait par hasard, eh ben, il est normal d'espérer, et je pense que Lavrov le sait très bien, et je pense que les services de renseignement américains, français le savent aussi, la population de Odessa, la population de Kharkov, majoritairement dira « mais moi je vais aller chez les Russes, je ne veux pas rester chez les fous de Zelensky hein. ». Ouais, qui sont des voyous qui s'enrichissent sur le dos de la population, qui ont supprimé tous les droits syndicaux, droits du travail, qui ont interdit les élections, interdit tous les partis politiques. C'est pas du tout attirant, l'Ukraine. Donc si on demande librement aux populations de toutes les régions d'Ukraine, je pense que la majorité des populations diront « mais nous, on veut rentrer dans la Russie, c'est tout, point à la ligne ». Et ça amènera... Et ça, c'est très très important, et ça montre le niveau de réflexion où en est parvenue la diplomatie russe. Ça amènera à une situation où on dira, mais en fait, qu'est-ce que c'est cet État d'Ukraine ? Eh bien, c'est un État d'Ukraine qui a été fabriqué avec des bouts et des morceaux. Avec un morceau polonais, un petit morceau hongrois, un petit morceau lituanien, etc. Et que, en fait, et qu'on a collé tout ça sur des grosses portions de Russie, et que c'est tout ça qui est en train d'éclater. Tout simplement, parce que c'était une fabrication... C'est pas si vieux que ça, l'Ukraine, dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Et bien ça, c'est ça qui est en train d'éclater. Et puis, les différences de comportement entre, d'un côté, la Russie qui essaye de défendre les populations, qui ne massacre pas la population ukrainienne actuelle. Hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de bombardement de villes dans l'armée russe. Hein. Il n'y a pas de bombardement d'installations civiles et tout. Il y a des bombardements d'installations militaires, de gares, de stocks de munitions et tout. Mais c'est tout. Et donc, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Parce que chaque fois que l'Ukraine tente un coup, c'est « je vais tirer sur une école, tirer sur un hôpital », etc. Donc ça relève du massacre terroriste. Bon. Donc le choix, ben, j'essaye de me mettre à la place, bon c'est bien ici, on est confortable, on réfléchit et tout, mais de me mettre à la place sur l'habitant moyen de région de quelconque d'Ukraine, il va se dire finalement les Russes sont beaucoup plus corrects que la direction ukrainienne telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, ça c'est une petite chose, enfin, ça a l'air de rien, quand Lavrov a dit ça, il n'a pas perdu son temps. Hein, il a dit, c'est pas nous qui allons tracer une frontière avec, hein, je vous dis, des piquets, on met des barrières douanières en rouge et blanc, comme vous les connaissez. Non, non, c'est la population qui va dire dans quel pays elle veut habiter. Ça, c'est très bien. Et cette population-là, en plus, elle s'aperçoit, c'est le cas à Mariupol et dans le Donbass, etc., que depuis 2022, tout a été reconstruit. Mariupol, ça a été reconstruit. Il y a des habitations neuves, il y a des écoles neuves, etc. Ça, la Russie l'a fait. Côté ukrainien, il ne se passe plus rien, parce que l'Ukraine reçoit beaucoup, beaucoup d'argent, qui en partie s'évapore, entre probablement dans des poches de Zelensky et de ses amis. Hein, mais l'Ukraine ne fait rien pour sa population. Elle chasse les hommes en âge de combattre pour les obliger à prendre l'uniforme et à venir se faire assassiner dans des opérations douteuses. Bon. Première donnée. Ensuite, deuxième intervention, mais il y a un prénom, je choisis comme ça. Il a été annoncé, alors là aussi, il y a une annonce bizarre, que l'OTAN, l'Angleterre, c'est pas très très clair, tout ça est dans le flou continental, le flou occidental qui est caractéristique de la situation actuelle, allait fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine pour que l'Ukraine tire à l'intérieur du territoire russe le plus loin possible à l'intérieur, pour mener la guerre carrément à la Russie en tant que telle. Alors ça, c'est annoncé comme ça, et un journaliste saisit Poutine, mais à pied dans un couloir à la sortie d'une réunion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors Poutine, comme il est, on sait comment il travaille, comment il réagit, il dit trois phrases. Il dit, écoutez, c'est très simple, ces armes-là, on les connaît. S'il n'y a pas des satellites artificiels qui appartiennent à l'OTAN et aux États-Unis, s'il n'y a pas des systèmes de guidage qui appartiennent à l'OTAN et aux États-Unis, l'Ukraine ne peut pas s'en servir. Donc si un missile de ce type-là est tiré sur la Russie, ça voudra dire que c'est les États-Unis qui ont donné leur accord et qui ont organisé ce tir. À ce moment-là, on saura qui est notre ennemi. Alors ça boue. Alors c'est très très simple. C'est très très simple, mais je pense que quand on est sur son siège gentiment assis au Pentagone, on se dit « Ouh, ça c'est embêtant, parce qu'il a bien mis le doigt sur la plaie. » Effectivement, on sera responsable. Et conséquence, si on est responsable, la riposte, elle est pour nous. Alors là, ça fait avancer les réflexions. Et je vais vous montrer que les réflexions ont avancé. Les réflexions ont avancé puisqu'il est sorti ces derniers jours un document du Pentagone envisageant une guerre eurasienne. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah ben voilà, c'est très simple. Alors imaginez, alors on repart du cas précédent, l'Ukraine tire un missile de longue portée quelque part à l'intérieur de la Russie, vers Moscou, Rostov, je ne sais pas où et tout. Bon. La Russie riposte. Alors ce que le document du Pentagone dit, la Russie riposte, depuis l'endroit où le missile a été, sur l'endroit où elle a été tirée. À la rigueur, peut-être de la Pologne, peut-être un peu plus loin. Mais elle riposte en Europe. Et les États-Unis disent, ah c'est très bien ça, parce qu'ils ripostent en Europe, hein, dimension eurasienne de la riposte. C'est-à-dire, la Russie se fait canarder, j'emploie un terme classique, et elle riposte du côté de l'Europe, puisque c'est l'Europe qui a envoyé. Et donc, ouf, au Pentagone, on respire, ah, il n'y a rien pour nous. Ah, il n'y a rien. Mais ça, alors là aussi, Poutine et son ministre de la Défense l'ont vu venir. Il dit, mais attendez, et c'est aussi Medvedev, le numéro 2 du Conseil de sécurité nationale, qui a vu venir. Il a dit, mais écoutez, si on sait que c'est l'OTAN qui a permis ça, c'est les États-Unis qui ont permis ça, c'est les satellites artificiels des États-Unis qui ont permis ça, c'est toute la machinerie militaire américaine, on va riposter face à l'organisateur, à l'orchestrateur du tir. Hein. Et ça ne sera même pas forcément une bombe atomique, il ajoute. Il ajoute même. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que si vous avez un sous-marin parmi plusieurs sous-marins qui s'approchent de la côte orientale des États-Unis, quelque part au large de Washington ou de Pittsburgh, qui tire un missile hypersonique sur Washington, mais sans bombe atomique, un bon gros missile avec une bonne grosse bombe, il peut raser tout le Capitole, le Sénat, la Maison Blanche, etc. Il n'y a plus de direction états-unienne. Et donc ça, effectivement, c'est une inquiétude réelle. C'est-à-dire, on pourrait disparaître aussi. Alors on a beau dire, ça sera une guerre en Eurasie, mais les Russes ne sont pas tombés dans le panneau. Si c'est vous qui déclarez la guerre, et qui l'a déclenchée, et qui l'a organisée, et qui la rendait possible, ça sera pour vous la riposte. On ne va pas s'amuser à tuer des Polonais, ou des Hongrois, ou je ne sais quoi, ou des Allemands pour le plaisir. Non, non, si c'est vous qui êtes les responsables, c'est vous qui aurez la riposte. Pourquoi ? Donc on est très très mal à Washington par rapport à ça. Alors là, on est en plus dans ce vide entre un président qui n'est plus président, cette élection qui n'en finit pas d'arriver. Et donc du coup, je pense que cette paralysie, c'est ce que je redisais, cette paralysie de l'appareil américain qui donne de la tête un peu dans tous les sens, amène beaucoup de commentateurs à dire aujourd'hui les États-Unis, le seul danger qu'il y a, c'est qu'ils deviennent, ils ont un peu perdu les pédales. Je dis ça dans la langue de tout le monde. En fait, les commentateurs polis disent la politique des États-Unis est devenue irrationnelle. On ne sait pas dans quelle direction ils vont aller parce qu'ils paniquent, ils pataugent, on ne sait pas du tout. Alors, c'est des périodes un peu dangereuses. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est des périodes où on peut faire des bêtises, y compris d'énormes bêtises, pas forcément pour soi, mais pour la population de son pays.
Tu avais parlé d'actes de terrorisme contre la Russie la dernière fois.
Voilà. Alors en fait, c'est aussi une idée alors, qui est lancée par la CIA et par le MI6, les services secrets britanniques, en disant, puisque du point de vue strictement militaire, l'OTAN n'arrive à rien et l'Ukraine n'arrive à rien, la seule façon de faire mal à la Russie, il faut faire mal à la Russie, ça ne la détruit pas. Mais c'est l'idée, alors qui a plus ou moins de bout, parce que les sondages ne donnent pas du tout ce résultat-là, de retourner la population russe contre la direction russe, contre Poutine et son gouvernement. En disant, plus on fera saigner, plus il y aura de morts, comme il y a eu à Crocus il y a quelques mois, plus l'opinion russe se retournera contre lui. Alors ça, c'est un calcul qui est probablement difficile à tenir parce que l'opinion russe n'est pas du tout retournée contre son gouvernement. Et on peut dire que, sans ironie trop profonde, qu'un gouvernement occidental, qu'il soit français ou britannique ou italien ou autre, qui aurait les taux de popularité du gouvernement russe, serait diablement content d'arriver à ces niveaux de satisfaction de sa population. On en est très très loin. On est très très loin, et donc c'est un peu se moquer de l'autre alors qu'on n'est pas soi-même dans une très très belle situation. C'est un peu facile. Et tout ça rentre dans la catégorie des mensonges, les 5 cancers de Poutine qui a été mort plusieurs fois, tout ça. Bon, ouais. c'est l'écume de la propagande, c'est pas très très intéressant. Alors on va sortir un peu de l'écume de la propagande pour aller à des choses plus intéressantes. Alors, et on va rester aux États-Unis. Parce qu'il est en train de ressortir un certain nombre de documents très avancés sur ce qu'a été le 11 septembre 2001. Il était temps. Alors, peut-être parce que une partie des États-Uniens n'ont pas accepté. On dit que même dans les sondages, donne que la majorité de la population des États-Unis ne croit pas à la version officielle. Et elle se partage en 2 catégories. Première catégorie, il y a ceux qui pensent que les dirigeants savaient que ça allait se passer, mais n'ont rien fait pour l'empêcher. C'est déjà une faute assez grave. Hein. Et qu'il y a une autre partie de la population qui considère qu'ils sont partie prenante dans l'opération. Alors, ils, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est George Bush, si c'est Cheney, si c'est Wolfowitz, si c'est Rumsfeld, enfin, bon, peu importe, mais ils sont parmi les auteurs, les organisateurs, ils, quelques-uns. Et il vient s'ajouter à ça, donc ce scepticisme de l'opinion états-unienne est conforté et alimenté très très régulièrement par quantité de groupes d'associations qui accumulent les réflexions de scientifiques, d'ingénieurs, de cabinets de travaux publics, de cabinets de tout ce qu'on peut imaginer, de toutes les spécialités scientifiques, pour dire « c'est pas possible ce qu'on nous a raconté. Ce qu'on nous a raconté n'est pas possible. » Et d'expliquer par exemple... On a dit que c'était le feu engendré par le kérosène dans les réservoirs des avions qui ont percuté les deux tours, qui, en brûlant, a fait fondre l'acier qui était la charpente interne. Il y avait des colonnes d'acier, mais pas deux ou trois. Il y avait 200 colonnes d'acier qui allaient du bas en haut et qui tenaient tout l'immeuble debout. Bon. Et tout ingénieur un peu sérieux dit, mais à quelle température fond l'acier et à telle température brûle le kérosène ? Bon, ben c'est très simple. Le kérosène brûle à 800 degrés centigrades, l'acier fond à 1200 degrés centigrades. Donc, ce n'est pas ça qui a fait fondre les tubulures d'acier. Bon, par exemple, je vous donne ça. Il y a toute une autre série de calculs sur le fait que les étages tombent les uns sur les autres, etc. Enfin, il y a rien ne tient, en fait. Rien ne tient. Et quand les pompiers de New York disent « Mais de toute façon, les tours, ce n'est pas les avions qui les ont fait tomber », il y a eu des explosions qu'on a entendues, étage après étage, pendant qu'elles s'effondraient. Ah, alors, ça, c'est autre chose. Bon. On ne dit pas non plus qu'une grosse partie des décombres des deux tours jumelles sont partis un mois après par bateau en Chine, de telle façon qu'aucune expertise des matériaux n'a été possible. Tiens, bon, comment ça se fait ça aussi ? Bon, enfin, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que la version officielle n'est plus crue. Et ça veut dire qu'il y avait des gens qui savaient, qui ont essayé de vendre cette version officielle, et qu'on arrive au moment où ceux qui ont conçu l'opération, ou ceux qui l'ont laissé faire, c'est les deux hypothèses possibles, sont ou bien morts, ou bien dans un état avancé de sénilité, et donc de toute façon, ils ne feront plus rien, ils ne pourront plus s'imposer. Et Trump lui-même a dit qu'il allait essayer de faire faire la lumière sur le 11 septembre, y compris comme sur l'assassinat de Kennedy. Alors, il le fera ou il ne le fera pas, mais c'est un argument de campagne qui touche, parce qu'effectivement, il y a une vraie réceptivité sur ce thème aux États-Unis. C'est pour ça que je faisais la relation tout à l'heure avec la déclaration de Durban, 7 septembre, et le 11 septembre. 4 jours après, en fait, la réponse était là, et on allait tuer des Arabes, en veux-tu, en voilà, et on en a tué des milliers, et quasiment des millions aujourd'hui d'Arabes sont morts. Ce qui en plus gêne Mme Kamala Harris, c'est qu'elle ne peut pas dire, je pense à la Palestine, elle ne peut pas dire comme Biden le 15 août ou le 14 août 2022, j'arrête, hein, on arrête d'envoyer de l'argent et des bombes à Netanyahou, parce qu'elle ne peut pas dire ça en campagne électorale, c'est trop tard maintenant, et si elle le disait, elle perdrait les élections. Hein. Bon. Donc elle ne peut pas le dire, elle est coincée. Donc voilà l'état des États-Unis tel qu'il est plus réellement. Et je voudrais m'arrêter un petit peu sur une période beaucoup plus ancienne, mais qui fait partie de notre histoire. Qui fait partie de notre histoire parce que dans le même temps où on raconte des histoires sur le 11 septembre, on raconte que, par exemple, c'est l'Amérique qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Bon, enfin, vous savez tous. Hein, et donc, de temps en temps, on a des historiens simplement sérieux qui disent, ben non, regardez, les deux grands pays qui ont eu le plus de pertes humaines pendant la Deuxième Guerre mondiale s'appellent numéro 1, l'URSS, 27 millions de morts. Numéro 2, la Chine, entre 18 et 20 millions de morts. Alors, la Chine s'affrontant, elle, au fascisme japonais, hein, mais le résultat et les comportements étaient les mêmes que de l'autre côté. Ouais. Voilà. Donc c'est ça qui a donné, et je crois que le nombre de morts de l'armée des États-Unis, c'est de l'ordre de 300 000. Ouais. C'est extrêmement faible. Bon. Donc il y a cette première vérité-là. Mais il y a aussi, en fait, les rapports des États-Unis avec le nazisme et le fascisme. Et ça, c'est un sujet très intéressant sur lequel on ne va pas beaucoup chercher, parce que ce rapport est très étroit. Ce rapport était très étroit. Alors, il s'est confirmé à partir de 1945, quand les États-Unis ont embauché, c'est tout à fait simple, les spécialistes du nazisme qui avaient sévi dans les camps de la mort ou dans l'organisme SS, etc., pour en faire des responsables des services secrets états-uniens, c'est-à-dire les services secrets des États-Unis et la CIA en tout premier, sont d'anciens nazis, qui ont apporté d'abord tout leur savoir-faire, je mets ça entre guillemets parce que c'est un mot assez douloureux, de parler de savoir-faire, le savoir-faire d'assassin, hein, et leur savoir-faire anti-soviétique, car ils étaient profondément anti-soviétiques, au service des États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est... Alors, ça remet en question ce qui s'est passé avant et l'attitude des États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là que je vais vous expliquer un certain nombre de choses pour comment s'est comporté le régime nazi à partir de 1933, donc quand Hitler est portée au pouvoir par le chancelier Hindenburg, pas par les élections, l'Allemagne nazie passe un certain nombre d'accords avec de drôles de gens. En juillet 1933, l'Allemagne nazie passe un concordat avec le Vatican. Tiens. Reconnaissance réciproque donc des nazis et de l'Église catholique, j'insiste, hein, et engagement de non-intervention. C'est-à-dire le pape s'engage à ne pas dire à ses ouailles, à ses fidèles, vous devriez lutter contre le nazisme parce que c'est un régime inhumain et qui n'est pas charitable du tout, on le comprendra après. En août de la même année, le 25 août, il est passé un accord entre le gouvernement des nazis et les juifs sionistes allemands. Écoutez bien, les juifs sionistes allemands, dans lesquels les juifs sionistes allemands, qui habitent sur place, qui sont citoyens allemands, disent qu'ils sont d'accord pour qu'ils soient transférés, eux et leurs biens, en Palestine. En Palestine. Ça, c'est une négociation entre des leaders du mouvement sioniste en Allemagne, citoyens allemands, avec le gouvernement nazi. On ne vous le dit pas. Alors, ils ne font que suivre l'attitude déjà des anglo-saxons, puisque les Britanniques étaient d'accord, les Américains aussi. Donc, ils suivaient la position. Allez, on va tous en Palestine, et on n'a évidemment pas demandé l'avis des Palestiniens, ça vous le savez. En 1934, on est en janvier, il y a un accord de non-agression entre l'Allemagne et la Pologne. Vous en avez entendu parler de ça ? Non. Jamais. Hein ? Alors on va vous parler de l'accord de non-agression Molotov. Ça, en veux-tu, en voilà. Mais par contre, qu'il y ait un accord de non-agression entre cette Pologne, qui était chérie, protégée par la France et la Grande-Bretagne, qui même vont déclarer la guerre pour sauver la Pologne, eh bien, il y avait un pacte de non-agression, qui a valu ce qu'il a valu, puisque ça n'a pas servi à grand-chose. Ça, on ne vous l'a pas dit. En 1935, il y a un agrément naval entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, en 1935, 4 ans avant le début de la guerre, autorise l'Allemagne à augmenter sa flotte de guerre. Ah bon ? Alors ils ne sont pas dangereux, puisqu'on leur dit « Allez-y, c'est des amis, vous pouvez augmenter vos bâtiments, vous pouvez construire des sous-marins pour couler nos bateaux ». Donc il y a complicité de l'Occident avec le régime nazi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas fini. C'est pas fini. On arrive en 1936, ça c'est plus connu, et vous savez qu'effectivement, il y a une tentative donc, de renversement de la République espagnole montée par un certain Franco, ça vous connaissez, et qui va appuyer Franco ? Eh ben, c'est évidemment l'Allemagne nazie, et subsidiairement l'Italie mussolinienne. Et face à ça, que diront nos démocraties si brillantes, la France et la Grande-Bretagne ? Ils laisseront faire. Ils laisseront faire, c'est-à-dire on laissera effectivement Hitler bombarder Guernica, etc. etc. Bon, tout ça montre que les anglo-saxons n'ont jamais été embêtés par le nazisme, puisqu'en fait, ils l'ont laissé se développer. Hein, de la même façon que... C'est pour ça qu'ils se retrouvent, et Poutine a tout à fait raison quand il dit qu'il y a des nazis en Ukraine, mais ça ne change rien, c'est dans le droit fil de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. En 1936, il y a un accord officiel entre l'Allemagne nazie et l'Italie mussolinienne, ça on connaît. En 1936, la même année, il y a un pacte anti-comintern, c'est-à-dire que le Japon d'un côté et l'Allemagne nazie de l'autre signent un accord en disant tous les régimes qui sont socialistes, on leur veut du mal, hein, donc on va faire la guerre, ce qui veut dire le Japon va faire la guerre à l'URSS et avec la Chine, ce qu'il a fait, ou ce qu'il a tenté de faire, et nous on va faire la guerre de l'autre côté. Bon. En 1938, il y a Munich, ça tout le monde sait en France, on se souvient, c'est-à-dire que la France et la Grande-Bretagne, n'écoutant que leur courage, disent à Hitler, tu as envie de la Tchécoslovaquie, vas-y, serre-toi, on ne dira rien, parce que nous, on veut la paix. Hein, donc fais la guerre, nous, on veut la paix, mais surtout, la fais pas chez nous. Alors, ils croyaient qu'ils auraient la paix de ce côté-là, ils avaient mal analysé le régime, enfin, ils le laissaient faire, donc on a eu la suite après. Enfin, il y a en 39 encore un accord entre l'Allemagne et la Lettonie, donc déjà des pays qui se signalent par leur anti-soviétisme, et la même année donc avec l'Estonie. Et on arrive par le couronnement. Alors le seul accord de ce type-là dont on parle, c'est l'accord Molotov-Ribbentrop. Tous les autres sont passés sous silence, ça n'a pas existé. C'est-à-dire tous les cas où effectivement l'Occident a laissé faire les nazis et même leur a donné la main, c'est-à-dire l'accord naval de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire allez-y, construisez tous les sous-marins que vous voulez, et quitte à couler nos bateaux. Hein. C'est un peu cynique, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc on va vous parler, en veux-tu, en voilà, à l'abondance de l'accord Molotov-Ribbentrop, où là, oh, les affreux russes, les affreux soviétiques qui ont signé un accord de non-agression avec les nazis, qui leur a permis effectivement de continuer leurs préparatifs de guerre et de tenir le choc qui a été d'une violence incroyable, hein, je rappelle 27 millions de morts, c'est pas rien du tout, et tout détruit, pratiquement il y a toute la partie occidentale européenne de la Russie est détruite ou réduite à pas grand chose. Bon. Voilà ce que je voulais dire sur cette façon d'écrire l'histoire. Et puis, alors, quelques mots sur la situation au Moyen-Orient qui sont importants. D'une part, on a une espèce de témoignage de la faiblesse de la Ligue arabe qui s'est réunie et qui, par rapport au conflit palestinien, additionne les uns après les autres les grands mots en disant « c'est dommage, c'est pas bien », etc., mais ne fait rien de concret. Pourquoi cette Ligue arabe ? Parce que cette Ligue arabe, elle est constituée par une partie par des monarchies réactionnaires, qui sont des monarchies sans parlement, sans droit, c'est même pas des monarchies constitutionnelles. Le seul endroit où il y a une constitution, c'est au Koweït, mais on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas lui. Hein. Les autres, ce sont des monarchies. Donc la Ligue arabe, c'est une espèce de fabrication qui ne peut pas produire grand-chose, parce qu'elle rassemble des régimes qui, sous le couvert de cette pratique commune de la langue arabe et de la pratique majoritaire de l'islam, mais ça rassemble, ça donne pas une unité politique du tout.
Non.
Hein? Et donc, ce qu'il y a comme riposte, et ça c'est très très important pour la suite du conflit palestinien, c'est que s'est mise en place ces derniers jours, à Bagdad, une coordination des mouvements de résistance à l'agression israélienne. Coordination du Hamas, du Hezbollah, de la résistance irakienne et des Houthis yéménites. C'est-à-dire que ce sont des groupes donc, qui ne sont pas des États, hein, qui sont la résistance de soutien à la cause palestinienne, coordonnent leur travail et ont un bureau commun à Bagdad. Ça veut dire que le gouvernement irakien a aujourd'hui la stature politique pour accueillir sur son territoire, d'une façon tout à fait officielle, hein, une coordination de la résistance anti-sioniste. Et ça, c'est très très important. Donc, versons une larme sur la Ligue arabe, mais qui ne peut pas trop s'améliorer, d'autant plus qu'elle invite la Turquie, qui n'a rien à y faire pour prendre la parole. Je ne vois pas du tout l'intérêt de la présence de la Turquie dans une réunion de la Ligue arabe. La Turquie qui, on le sait, verse aussi une larme sur la souffrance des Palestiniens, puis ne fait rien, donc pas de changement là-dessus. Ce qui est important, c'est que ça change au niveau concret, c'est-à-dire la coordination de la résistance, elle fonctionne, elle est officielle, ce n'est pas clandestin. Et il y a un gouvernement à Bagdad qui est capable de dire « Oui, ils sont chez moi, ils travaillent et je les soutiens et je les laisse faire. »
Ils se concertent aussi et voilà, chaque...
Voilà, pour chaque action. Donc il y a coordination, il y a vraiment un front militaire et politique, parce que là aussi il y a de la politique
stratégique
ouais, qui est constitué à Bagdad. Et c'est une très très bonne chose. Ouais. Ensuite, alors je vais te dire un mot, puisque je suis dans la région, des réfugiés syriens. Les réfugiés syriens, puisque ça a été évoqué aussi à ce sommet de la Ligue arabe un peu en vain, et le ministre des Affaires étrangères syrien actuel a dit « Écoutez, maintenant, on veut que tous les réfugiés syriens, tous ceux qui sont partis et qui sont... » Alors, il y en a qui sont allés s'installer ailleurs, très très loin là-bas, mais il y en a beaucoup qui sont encore sous des tentes depuis 10 ans, quelque part en Turquie. Bon, ça, il faudrait... Nous voulons, nous, qu'ils rentrent chez nous. Nous avons passé toutes les lois d'amnistie possibles et imaginables. On ne leur demandera rien sur ce qu'ils ont pensé, avec qui ils étaient, s'ils ont été plus pour les terroristes, machin. C'est fini. Les lois d'amnistie, elles sont votées, elles sont écrites dans le marbre et tout. Mais si nous, on veut qu'ils reviennent, laissez-les revenir, ça veut dire c'est une adresse à l'Occident, mais donnez-nous les moyens de les accueillir proprement, c'est-à-dire qu'on ait de quoi leur donner à manger, c'est-à-dire enlever les sanctions. Car si vous laissez la loi César, on va faire venir 3-4 millions de personnes et on n'aura pas à leur donner à manger le soir même.
Hein.
Donc voilà. Et donc il a bien fait de mettre l'Occident en face de ses responsabilités. Les réfugiés, on les veut. Ça rappelle à la déclaration de Durban. Les réfugiés, qu'ils soient des réfugiés palestiniens ou là syriens, ils ont le droit de rentrer chez eux. Hein. Mais il faut qu'ils puissent manger et qu'on puisse les loger tous les jours. Ça suppose qu'il n'y ait plus de sanctions. Ça, c'est très important qu'il l'ait dit. Dernière chose, un portrait de l'État, du chef d'État africain le plus honteux qui existe. Alors, on va donner une médaille du chef d'État africain le plus honteux. Il s'appelle M. Ruto. Il est président du Kenya, considéré comme une belle démocratie africaine, ami de l'Occident, etc. M. Ruto, a fait deux choses ces derniers temps qui en disent assez long sur le personnage et sa politique. Première chose, on en avait déjà parlé à l'antenne, il a, à la demande du gouvernement de Washington, envoyé, je crois que c'est 50 000 ou 80 000 policiers et gendarmes, donc kényans, à Haïti, pour faire régner l'ordre à Haïti. De quoi je me mêle, c'est les États-Unis qui ont dit « on recherche un sous-traitant pour faire la police à Haïti bon. ». Et on paye. Bon. Alors donc, M. Ruto a envoyé ses gendarmes et ses agents de police. Il se trouve que les salaires à la fin du mois arrivent avec un peu de retard, donc ça grogne un peu dans les rangs, mais ça, M. Ruto, ça n'empêche pas du tout de dormir. Ça veut dire que le chèque, le virement en dollars n'arrive pas tout de suite, bon, il y a des problèmes, ou alors il en laisse une partie dans sa poche, je ne sais pas. Bon, enfin, ça ne se passe pas très très bien, et puis ça ne règle pas les problèmes des Haïtiens en aucune façon. C'est simplement une cession des mercenaires gendarmes. Le deuxième chose qu'il vient de faire, et là c'est encore plus gros parce que je ne connais pas de précédent, c'est qu'il vient de signer un accord avec l'Allemagne fédérale. Alors l'Allemagne fédérale est en crise économique et elle avait besoin pour faire fonctionner ses usines. Alors il y en a beaucoup qui fonctionnent. Il faut savoir que Volkswagen, l'entreprise type, enfin la grande réussite de l'industrie allemande depuis le nazisme, c'est Volkswagen. Est en train de fermer des usines sur le sol de la République fédérale allemande. Ça, c'était du jamais vu. Bon. Et en fait, un des problèmes auxquels les grosses entreprises allemandes sont confrontées, à part le problème du coût de l'énergie dont on a reparlé à propos des gazoducs, est qu'ils ont de la peine à trouver des ouvriers. Bon. Et donc, qu'a fait M. Ruto ? M. Ruto vient, il vient de vendre 250 000 Kenyans à l'Allemagne fédérale. Donc M. Ruto est un esclavagiste qui vend ses citoyens à un pays qui manque de main-d'œuvre. Alors, on peut imaginer en plus que, je ne sais pas quels engagements M. Ruto va demander à M. Scholz pour le traitement et les conditions d'accueil de ces 250 000 personnes. Est-ce qu'ils auront un logement avec une douche, le confort minimum, etc. Quel sera leur salaire versé par Volkswagen ou Mercedes, etc. Je ne sais pas si M. Scholz s'en préoccupe ou s'il dit « envoyez-moi ça, on verra bien comment ils se débrouillent, hein, ils vivront la condition des immigrés ». Mais ils auront été vendus par un chef d'État africain. Donc, honte soit sur M. William Ruto, président du Kenya. Alors, c'est un des meilleurs amis de l'Occident. Je pense que ses voisins africains savent à qui ils ont affaire. Ils ne sont pas très amis avec lui, mais il est au pouvoir jusqu'à nouvel ordre avec le soutien de l'Occident. Dernière chose, je regarde très très vite, avant qu'on passe un peu de musique. Il se confirme que, là aussi certainement sous pression et sur instigation des États-Unis, M. Morales, l'ancien président bolivien, essaye de faire tomber le président actuel, M. Luis Arce, pour prendre sa place aux prochaines élections présidentielles. Tout en sachant que la Cour suprême, je ne sais pas quel est le titre exact, la Cour suprême bolivienne a interdit le président sortant, qui a fait deux mandats, de se représenter. Donc M. Morales est en train, et je pense que c'est ça qui profiterait le plus aux États-Unis, de tenter un coup d'État contre son successeur, qui heureusement est soutenu par une grande partie de la population. Mais ça fait partie des difficultés de la situation en Amérique latine, sur laquelle on reviendra dans une prochaine émission. Voilà, on va finir par une petite chanson de soutien à la Palestine, et surtout c'est une chanson chantée par une chanteuse libanaise qui s'appelle Julia Boutros, et qui est intéressante parce qu'elle rend hommage aux héros quotidiens. C'est-à-dire que la résistance palestinienne, c'est pas simplement les combattants du Hamas ou du djihad islamique, etc. C'est une population, celle de Gaza, celle de Jenin, celle de Ramallah, qui supporte d'une façon à peine croyable humainement tout ce qu'elle subit avec un courage extraordinaire, qui fait de chaque Palestinien aujourd'hui qui vit à Gaza et là un héros de l'humanité. Parce que qui supporterait la façon dont ils sont traités ? Pas grand monde. Bon, donc, c'est ça que chante Julia Boutros et on l'écoute. Merci de votre attention. Merci,
oui,
Roselyne.
Vas-y. Je voulais juste faire une petite annonce concernant la table de mixage de Radio Galère qui est en fin de vie.
Oui.
Radio Galère a lancé un appel à dons sur le site Hello Asso. Remettre à flot Radio Galère. Voilà, vous pouvez faire des dons pour le rachat d'une nouvelle table de mixage. Voilà. Merci.
Voilà, on va écouter la roule. Votre...
مقاوم مرضى غير المعز لكن والحكايه اشتي اهل